Chapitre 3. Il serait difficile de peindre l'espèce de consternation qui frappa Tristan et son frère en apprenant la mort de l'homme qu'ils avaient un si grand désir de retrouver. Ce n'est jamais, quoi qu'on en dise, une chose indifférente que la mort. On ne la brave pas sans courage, on ne la voit pas sans horreur, et il est même douteux qu'un gros héritage puisse rendre vraiment agréable sa hideuse figure dans le moment où elle se présente. Mais quand elle nous enlève subitement quelque bien ou quelque espérance, quand elle se mêle de nos affaires et nous prend dans les mains ce que nous croyons tenir, c'est alors surtout qu'on sent sa puissance et que l'homme reste muet devant le silence éternel. Saint Aubin avait été tué en Algérie dans une razzia. Après s'être fait raconter, tant bien que mal, par les gens de l'hôtel, les détails de cet événement, les deux frères reprirent tristement le chemin de la maison qu'ils habitaient à Paris. « Que faire maintenant ?» dit Tristan. « Je croyais n'avoir, pour sortir d'embarras, qu'un mot à dire à un honnête homme, et il n'est plus. Pauvre garçon, je m'en veux à moi-même de ce qu'un motif d'intérêt personnel se mêle au chagrin que me cause sa mort. C'était un brave et digne officier. Nous avions bivouaqué et trinqué ensemble. Ayez donc 30 ans, une vie sans reproche, une bonne tête et un sabre au côté pour aller vous faire assassiner par un bédouin en embuscade. Ah, tout est fini, je ne songe plus à rien. Je ne veux pas m'occuper d'un compte quand j'ai à pleurer un ami. Que toutes les marquises du monde disent ce qui leur plaira. » Ton chagrin est juste, répondit Armand. Je le partage et je le respecte. Mais tout en regrettant un ami et en méprisant une coquette, il ne faut pourtant rien oublier. Le monde est là, avec ses lois. Il ne voit ni ton dédain, ni tes larmes. Il faut lui répondre dans sa langue, ou tout au moins l'obliger à se taire. Mais que veux-tu que j'imagine ? Où veux-tu que je trouve un témoin, une preuve quelconque, un être ou une chose qui puisse parler pour moi ? Tu comprends bien que Saint Aubin, lorsqu'il est venu me trouver pour s'expliquer en galant homme sur une aventure de grisette, n'avait pas amené avec lui tout son régiment. Les choses se sont passées en tête à tête. Si elles eussent dû devenir sérieuses, certes, alors les témoins seraient là. Mais nous nous sommes donné une poignée de main et nous avons déjeuné ensemble. Nous n'avions que faire d'inviter personne. Mais il n'est guère probable, reprit Armand, que cette sorte de querelle et de réconciliation soit demeurée tout à fait secrète. Quelques amis communs ont dû la connaître. Rappelle-toi, cherche dans les souvenirs. Pouf, à quoi bon ? Quand même, en cherchant bien, je pourrais retrouver quelqu'un qui se souvient de cette vieille histoire. Ne veux-tu pas que j'aille me faire donner par le premier venu une espèce d'attestation, comme quoi je ne suis pas un poltron ? Avec Saint Aubin, je pouvais agir sans crainte. Tout se demande à un ami. Mais quel rôle jouerais-je à l'heure qu'il est, en allant dire à un de nos camarades ? Vous rappelez-vous, une petite fille, un bal, une querelle de l'an passé ? On se moquerait de moi, et on aurait raison. Mais c'est vrai. Cependant, il est triste de laisser une femme orgueilleuse, vindicative et offensée, tenir impunément de méchants propos. Oui, cela est bien plus triste qu'on ne peut le dire. À une insulte faite par un homme, on répond par un coup d'épée. Contre toute espèce d'injure publique ou non, même imprimée, on peut se défendre. Mais quelle ressource a-t-on contre une calomnie sourde, répétée dans l'ombre à voix basse par une femme malfaisante qui vous veut nuire ? C'est là le triomphe de la lâcheté. C'est là qu'une pareille créature, dans toute la perfidie du mensonge, dans toute la sécurité de l'impudence, vous assassine à coups d'épingle. C'est là qu'elle ment avec tout l'orgueil, toute la joie de la faiblesse qui se venge. C'est là qu'elle glisse à loisir, dans l'oreille d'un sot qu'elle cajole, une infamie étudiée, revue et augmentée par l'auteur. Et cette infamie fait son chemin, cela se répète, se commente. Et l'honneur, le bien du soldat, l'héritage des aïeux, le patrimoine des enfants est mis en question pour une telle misère. Tristan parut réfléchir pendant quelque temps, puis il ajouta d'un ton à demi sérieux, à demi plaisant, ah, j'ai envie de me battre avec la bretonnière. À propos de quoi? Dit Armand, qui ne put s'empêcher de rire. Que t'a fait ce pauvre diable dans tout cela? Ce qu'il m'a fait, c'est qu'il est très possible qu'il soit au courant de mes affaires. Il est assez dans les initiés et probablement curieux de sa nature. Oh, je ne serais pas du tout surpris que la marquise le prît pour confident. Oh, tu vas voir du moins que ce n'est pas de sa faute si on lui raconte une histoire et qu'il n'en est pas responsable. Bof, et s'il s'en fait l'éditeur? Cet homme-là, qui n'est qu'une mouche du coche, est plus jaloux 100 fois de Madame de Vernage que s'il était son mari. Et en supposant qu'elle lui récite ce beau roman inventé sur mon compte, crois-tu qu'il s'amuse à garder le secret? À la bonne heure, mais encore faudrait-il être sûr d'abord qu'il en parle, et même dans ce cas-là, je ne vois guère qu'il puisse être juste de chercher querelle à quelqu'un parce qu'il répète ce qu'il a entendu dire. Quelle gloire y aurait-il d'ailleurs à faire peur à la bretonnière? Il ne se battrait certainement pas, et franchement, il serait dans son droit. S'il se battrait, ce garçon-là me gêne. Il est ennuyeux, il est de trop dans ce monde. En vérité, mon cher Tristan, tu parles comme un homme qui ne sait à qui s'en prendre. Ne dirait-on pas à t'entendre que tu cherches une affaire d'honneur pour établir ta réputation ou que tu as besoin d'une balafre pour la montrer à ta maîtresse comme étudiant allemand? Oui, mais aussi c'est que je me trouve dans une situation vraiment intolérable. On m'accuse, on me déshonore et je n'ai pas un moyen de me venger. Si je croyais réellement... Les deux jeunes gens passaient en cet instant sur le boulevard devant la boutique d'un bijoutier. Tristan s'arrêta de nouveau, tout à coup, pour regarder un bracelet placé dans l'étalage. « Ben, voilà une chose étrange, » dit-il. « Qu'est-ce que c'est? Veux-tu te battre aussi avec la fille du comptoir? Non, non pas, mais tu me conseillais de chercher dans mes souvenirs. » En voici un qui se présente. Tu vois bien ce bracelet d'or qui, du reste, n'a rien de merveilleux, un serpent avec 2 turquoises. Bien dans le moment de ma dispute avec Saint-Aubin, il venait de commander chez ce même marchand, dans cette boutique, un bracelet comme celui-là, lequel bracelet était destiné à cette grisette dont il s'occupait et qui avait failli nous brouiller. Lorsque, après notre querelle vidée, nous eûmes déjeuné ensemble, « Parbleu, me dit-il en riant, oh, tu viens de m'enlever la reine de mes pensées, à l'instant où je me disposais à lui faire un cadeau. C'était un petit bracelet avec mon nom gravé en dedans, mais ma foi, elle ne l'aura pas. Oh, si tu veux le lui donner, je te le cède. Puisque tu es le préféré, il faut que tu payes ta bienvenue. » « Faisons mieux, répondis-je, soyons de moitié dans l'envoi que tu comptais lui faire. » « Tu as raison, reprit-il, mon nom est déjà sur la plaque, il faut que le tien y soit gravé aussi, et en signe de bonne amitié, nous y ferons ajouter la date. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. La date et les 2 noms écrits sur le bracelet furent envoyés à la demoiselle et doivent actuellement exister quelque part en la possession de Mademoiselle Javotte, oui c'est le nom de notre héroïne, à moins qu'elle ne l'ait vendue pour aller dîner. « Mais à merveille !» s'écria Armand, « cette preuve que tu cherchais est toute trouvée. Il faut maintenant que ce bracelet reparaisse. Il faut que la marquise voie les 2 signatures et le jour bien spécifié. Et il faut que Mademoiselle Javotte elle-même témoigne au besoin de la vérité et de l'identité de la chose. N'est-ce pas assez pour prouver clairement que rien de sérieux n'a pu se passer entre Saint-Aubin et toi ? Certes, 2 amis qui, pour se divertir, font un pareil cadeau à une femme qu'ils se disputent, ne sont pas bien en colère l'un contre l'autre, et il devient alors évident. « Ah oui, tout cela est très bien, dit Tristan. Oh, ta tête va plus vite que la mienne. Mais pour exécuter cette grande entreprise, Ne vois-tu pas qu'avant de retrouver ce bracelet si précieux, il faudrait commencer par retrouver Javotte? Malheureusement, ces deux découvertes semblent également difficiles. Si d'un côté la jeune personne est sujette à perdre ses nippes, elle est capable, d'une autre part, de s'égarer fort elle-même. Chercher, après 1 an d'intervalle, une grisette perdue sur le pavé de Paris, et dans le tiroir de cette grisette un gage d'amour fabriqué en métal, cela me paraît au-dessus de la puissance humaine, c'est un rêve impossible à réaliser. Pourquoi? Reprit Armand. Essayons toujours. Vois comme le hasard de lui-même te fournit l'indice qu'il te fallait. Tu avais oublié ce bracelet. Il te le met presque devant les yeux, ou du moins il te le rappelle. Tu cherchais un témoin, le voilà, il est irrécusable. Ce bracelet dit tout, ton amitié pour Saint-Aubin, son estime pour toi et le peu de gravité de l'affaire. La fortune est femme, mon cher. Quand elle fait des avances, il faut en profiter. Penses-y, tu n'as que ce moyen d'imposer silence à Madame de Vernage. Mademoiselle Javotte et son serpentin bleu sont ta seule et unique ressource. Paris est grand, c'est vrai, mais nous avons du temps, ne le perdons pas. Et d'abord, où demeurait jadis cette demoiselle? Pouf, à te dire vrai, je n'en sais plus rien. Oh, c'était, je crois, dans un passage, une espèce de square, de cité. Entrons chez le bijoutier et questionnons-le. Les marchands ont quelquefois une mémoire incroyable. Ils se souviennent des gens après des années, surtout de ceux qui ne les paient pas très bien. Tristan se laissa conduire par son frère et tous deux entrèrent dans la boutique. Ce n'était pas une chose facile que de rappeler au marchand un objet de peu de valeur acheté chez lui il y avait longtemps. Il n'avait pourtant pas oublié à cause de la singularité des deux noms réunis. Ah, je me souviens, en effet, dit-il, d'un petit bracelet que deux jeunes gens m'ont commandé l'hiver dernier. Et je reconnais bien monsieur. Mais quant à savoir où ce bracelet a été porté, à qui j'en peux rien dire. C'était à une demoiselle Javotte, dit Armand, qui devait demeurer dans un passage. Attendez, reprit le bijoutier. Il ouvrit son livre, le feuilleta, réfléchit, se consulta et finit par dire: Ah non, c'est cela même, mais ce n'est point le nom de Javotte que je trouve sur mon livre. C'est le nom de Madame de Montval, cité bergère. Mais vous avez raison, dit Tristan, elle se faisait appeler ainsi. Ce nom de Montval m'était sorti de la tête. Peut-être avait-elle le droit de le porter, car son titre de Javotte n'était, je crois, qu'un sobriquet. Travaillez-vous encore quelquefois pour elle? Vous a-t-elle acheté une autre chose? Non, monsieur, non. Ah, elle m'a vendu, au contraire, une chaîne d'argent cassée qu'elle avait. Mais point de bracelet? Oh, non, monsieur, non. Va pour Montval, dit Armand. Grand merci, monsieur, et quant à nous, en route pour la cité bergère. Je crois, dit Tristan en quittant le bijoutier, qu'il serait bon de prendre un fiacre. J'ai quelque peur que Madame de Montval n'ait changé plusieurs fois de domicile et que notre course ne soit trop longue. Cette prévision était fondée. La portière de la cité bergère apprit aux deux frères que Madame de Montval avait déménagé depuis longtemps, qu'elle s'appelait à présent Mademoiselle Durand, ouvrière en robe, et qu'elle demeurait rue Saint-Jacques. Est-elle à son aise? A-t-elle de quoi vivre? Demanda Armand, poursuivi par la crainte du bracelet vendu. Oh oui, monsieur, elle fait beaucoup de dépenses. Elle avait ici un logement complet, des meubles d'acajou et une batterie de cuisine. Elle voyait beaucoup de militaires, toutes personnes décorées et très comme il faut. Elle donnait quelquefois de très jolis dîners qu'on faisait venir du café Vachette. Tous ces messieurs étaient bien gais. Il y en avait un qui avait une bien belle voix, qui chantait comme un vrai artiste de l'Académie. Du reste, monsieur, il n'y a jamais eu rien à dire sur le compte de Madame de Montval. Elle étudiait aussi pour être artiste. C'était moi qui faisais son ménage, et elle ne sortait jamais qu'en citadine. Fort bien, dit Armand, allons rue Saint-Jacques. Ah, mademoiselle Durand ne loge plus ici, répondit la seconde portière. Il y a 6 mois qu'elle s'en est allée, et nous ne savons guère trop où elle est. Oh, ce ne doit pas être dans un palais, car elle n'est pas partie en carrosse, et n'emportait pas grand-chose. Est-ce qu'elle menait une vie malheureuse? Mon Dieu, une vie bien pauvre. Elle n'était guère à l'aise, cette demoiselle. Elle demeurait là, au fond de l'allée, sur la cour, derrière la fruitière. Elle travaillait toute la sainte journée, elle ne gagnait guère, elle avait bien du mal. Elle allait au marché le matin, où elle faisait sa soupe elle-même sur un petit fourneau qu'elle avait. On ne peut pas dire qu'elle manquait de soin, mais cela sentait toujours les choux dans sa chambre. Il y a une dame en deuil qui est venue, un de ses tantes qui l'a emmenée. Oh, nous croyons qu'elle s'est mise aux sœurs du bon pasteur. La légère du coin vous dira peut-être cela, c'était elle qui l'employait. Allons chez la lingère, dit Armand, mais les choux sont de mauvais augure. Le troisième renseignement recueillir sur Javotte ne fut pas d'abord plus satisfaisant que les deux premiers. Moyennant une petite somme que sa famille avait trouvé moyen de fournir, elle était entrée en effet au couvent des sœurs du bon pasteur et y avait passé environ 3 mois. Comme sa conduite était bonne, la protection de quelques personnes charitables l'avait fait admettre par les sœurs, qui lui montraient beaucoup de bonté et qui n'avaient qu'à se louer de son obéissance. Malheureusement, disait la lingère, cette pauvre enfant a une tête si vive qu'il ne lui est pas possible de rester en place. C'était une grande faveur pour elle que d'avoir été reçue comme pensionnaire par les religieuses. Tout le monde disait du bien d'elle, et elle remplissait régulièrement ses devoirs de religion, en même temps qu'elle travaillait très bien, car c'est une bonne ouvrière. Mais tout d'un coup, sa tête est partie. Elle a demandé à s'en aller. Vous comprenez, monsieur, que dans ce temps-ci, un couvent n'est pas une prison. Alors on lui a ouvert les portes, et elle s'est envolée. Et vous ignorez ce qu'elle est devenue? Pas tout à fait, répondit en riant la lingère. Il y a une de mes demoiselles qui l'a rencontrée au Ranelag. Elle se fait appeler maintenant Amélina Rosenval. Oh, je crois qu'elle demeure rue de Breda et qu'elle est figurante aux Folies Dramatiques. Tristan commençait à se décourager. Oh, laissons tout cela, dit-il à son frère. À la tournure que prennent les choses, nous n'en aurons jamais fini. Qui sait si Mademoiselle Durand, Madame de Montval, Madame Rosenval n'est pas en Chine ou à Quimper-Corentin. Il faut y aller voir, disait toujours Armand. Nous avons trop fait pour nous arrêter. Qui te dit que nous ne sommes pas sur le point de découvrir notre voyageuse? Ouvrière ou artiste, nonne ou figurante, je la trouverai. Ne faisons pas comme cet homme qui avait parié de traverser pieds nus un bassin gelé au mois de janvier et qui arrivait à moitié chemin, trouva que c'était trop froid et revint sur ses pas. Armand avait raison cette fois. Madame Rosenval en personne fut découverte rue de Breda. Mais il ne s'agissait plus à cette nouvelle adresse du couvent ni des choux ni du Ranelag. De figurante qu'elle était, naguère, Madame Rosenval était devenue tout à coup, par la grâce du hasard et d'un ancien préfet, personnage important et protecteur des arts, prima donna d'un théâtre de province. Elle habitait depuis quelque temps une assez grande ville du midi de la France, où son talent, nouvellement découvert, mais généreusement encouragé, faisait les délices des connaisseurs du lieu et l'admiration de la garnison. Elle se trouvait à Paris en passant pour contracter, si faire se pouvait, un engagement dans la capitale. On dit aux deux jeunes gens, il est vrai, qu'on ne savait pas s'ils pourraient être reçus. Mais ils furent introduits par une femme de chambre dans un appartement assez riche, d'un goût peu sévère, ornée de statuettes, de glace et de carton-pâte, à peu près comme un café. la maîtresse du lieu était à sa toilette. Elle fit dire qu'on attendit et qu'elle allait recevoir M. de Merville. Bon, à présent, je te laisse, dit Armand à son frère. Tu vois que nous sommes venus à bout de notre campagne. Oh, c'est à toi de faire le reste. Décide Mme Rosenval à te rendre ton bracelet. Qu'elle l'accompagne d'un mot de sa main qui donne plus de poids à cette restitution. Et revient armé de cette preuve authentique et moquons-nous de la marquise. Armand sortit sur ces paroles et Tristan resta seul à se promener dans le somptueux salon de Javotte. Il y était depuis un quart d'heure lorsque la porte de la chambre à coucher s'ouvrit. Un gros et grand monsieur à la démarche grave, à la tête grisonnante, portant des lunettes, une chaîne, un binocle et des breloques de montre, le tout en or, s'avança d'un air affable et majestueux. « Monsieur, dit-il à Tristan, j'apprends que vous êtes le parent de Madame Rosenval. Si vous voulez prendre la peine d'entrer, elle vous attend dans son cabinet. » Il fit un léger salut et se retira. « Peste, se dit Tristan, il paraît que Javotte voit à présent meilleure compagnie que dans l'allée de la rue Saint-Jacques. » Soulevant une portière de soie chamarrée que lui avait indiqué le monsieur aux lunettes d'or, il pénétra dans un boudoir tendu en moussine rose, où Madame Rosenval, étendue sur un canapé, le reçut d'un air nonchalant. Comme on ne retrouve jamais sans plaisir une femme qu'on a aimée, fût-ce Amélina, fût-ce même Javotte, surtout lorsqu'on s'est donné tant de peine pour la chercher, Tristan baisa avec empressement la main fort blanche de son ancienne conquête, puis il prit place à côté d'elle et débuta, comme cela se devait, par lui faire ses compliments sur ce qu'elle était en belle lie, qu'il la revoyait plus charmante que jamais, etc., etc. Toute chose qu'on dit à toute femme qu'on retrouve fut-elle devenue plus laide qu'un péché mortel. « Permettez-moi, ma chère, ajouta-t-il, de vous féliciter sur le rechangement qui me semble s'être opéré dans vos petites affaires. Vous êtes logé ici comme un grand seigneur. » Oh, vous serez donc toujours un mauvais plaisant, monsieur de Merville, répondit Javotte. Tout cela est fort simple. Ce n'est qu'un pied-à-terre. Mais je me fais arranger quelque chose là-bas, car vous savez que je perche au diable. Oui, j'ai appris que vous étiez au théâtre. Mon Dieu, oui, je me suis décidé. Oh, vous savez que la grande musique, la musique sérieuse, a été l'occupation de toute ma vie. Monsieur le baron, que vous venez de voir, je suppose, sortant d'ici, et qui est un de mes bons amis, m'a persécuté pour prendre un engagement. Que voulez-vous ? Je me suis laissé faire. Nous jouons toutes sortes de choses, le drame, le vaudeville, l'opéra. Mais on m'a dit cela, reprit Tristan, mais j'ai à vous parler d'une affaire assez sérieuse et... Comme votre temps doit être précieux, trouvez bon que je me hâte de profiter de l'occasion que j'ai de vous faire mes confidences. Vous souvenez-vous d'un certain bracelet ? Tout en parlant, Tristan, par distraction, jeta les yeux sur la cheminée. La première chose qu'il remarqua fut la carte de visite de la Bretonnière accrochée à la glace. « Est-ce que vous connaissez ce personnage-là ? » demanda-t-il avec surprise. « Oui, c'est un ami du baron, où je le vois de temps en temps, et je crois même qu'il dîne à la maison aujourd'hui. Mais de grâce, continuez donc, je vous en prie, et je vous écoute. » Chapitre 4. Il y aurait peut-être pour le philosophe ou pour le psychologue, comme on dit, une curieuse étude à faire sur le chapitre des distractions. Supposez un homme qui est en train de parler des choses qui le touchent le plus à la personne dont il est le plus à craindre ou à espérer, à un avocat, une femme ou un ministre. Quel degré d'influence exercera sur lui une épingle qui le pique au milieu de son discours, une boutonnière qui se déchire, un voisin qui se met à jouer de la flûte? Que fera un acteur récitant une tirade et apercevant tout à coup un de ses créanciers dans la salle? Jusqu'à quel point, enfin, Peut-on parler d'une chose et en même temps penser à une autre? Tristan se trouvait à peu près dans une situation de ce genre. D'une part, comme il l'avait dit, le temps pressait, le monsieur à lunettes d'or pouvait reparaître à tout moment. D'ailleurs, dans l'oreille d'une femme qui vous écoute, il y a une mouche qu'il faut prendre au vol. Dès qu'il est plus trop tôt, avec elle, presque toujours il est trop tard. Tristan attachait assez de prix à ce qu'il venait demander à Javotte pour y employer toute son éloquence. Plus la démarche qu'il faisait pouvait sembler bizarre et extraordinaire, plus il sentait la nécessité de la terminer promptement. Mais d'une part, il avait devant les yeux la carte de la Bretonnière, ses regards ne pouvaient s'en détacher. Et tout en poursuivant l'objet de sa visite, il se répétait à lui-même « Mais je retrouverai donc cet homme-là partout ?»« Enfin, que voulez-vous » dit Javotte, « vous êtes distrait comme un poète en couche. » Il va sans dire que Tristan ne voulait point parler de son motif secret, ni prononcer le nom de la marquise. « Je ne puis rien vous expliquer, » expliqua-t-il. « Non, je ne puis que vous dire une seule chose. » C'est que vous m'obligeriez infiniment, en me rendant le bracelet que Saint-Aubin et moi nous vous avons donné, s'il est encore en votre possession. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire? Oh, rien qui puisse vous inquiéter, je vous en donne ma parole. Oh, je vous crois, Merville, vous êtes homme d'honneur, mais le diable m'emporte, je vous crois. Madame Rosenval, dans ses nouvelles grandeurs, avait conservé quelques expressions qui sentaient encore un peu les choux. Je suis enchanté, dit Tristan, que vous ayez de moi un si bon souvenir. Vous n'oubliez pas vos amis. Oubliez mes amis, jamais. Vous m'avez vu dans le monde quand j'étais sans le sou, je me plais à le reconnaître. J'avais deux paires de bas à jour qui se succédaient. L'un et l'autre, et je mangeais la soupe dans une cuillerée de bois. Maintenant, je dîne dans de l'argent massif, avec un laquais par derrière et plusieurs dindons par devant. Mais mon cœur est toujours le même. Savez-vous que dans notre jeune temps, nous nous amusions pour de bon? À présent, je m'ennuie comme un roi. Souvenez-vous d'un jour, à Montmorency? Ah non, non, ce n'était pas vous, je me trompe, mais c'est égal, c'était charmant. Ah, les bonnes cerises et ces côtelettes de veau que nous avons mangées chez le père Duval au château de la Chasse, pendant que le vieux coq, ce pauvre coco, picorait du pain sur la table. Il y a eu pourtant deux Anglais assez bêtes pour faire boire de l'eau de vie à ce pauvre animal, et il en est mort, avez-vous su cela? Lorsque Javotte parlait ainsi à peu près naturellement, c'était avec une volubilité extrême. Mais quand ses grands airs la reprenaient, elle se mettait tout à coup à traîner ses phrases avec un air de rêverie et de distraction. « Oui, vraiment, » continua-t-elle d'une voix de duchesse enrhumée, « je me souviens toujours avec plaisir de tout ce qui se rattache au passé. »« Mais c'est à merveille, ma chère Amélina. » Mais répondez de grâce à mes questions. Avez-vous conservé ce bracelet? Mais quel bracelet, Merville? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, ce bracelet que je vous redemande et que Saint-Aubin et moi nous vous avions donné. Fi donc, redemander un cadeau, mais c'est bien peu gentilhomme, mon cher. Il ne s'agit point ici de gentilhommerie. Je vous l'ai dit, il s'agit d'un service fort important que vous pouvez me rendre. Réfléchissez, je vous en conjure, et répondez-moi sérieusement. Si ce n'est que le bracelet qui vous tient au cœur, je m'engage bien volontiers à vous en mettre un autre à chaque bras en échange de celui dont j'ai besoin. C'est fort galant de votre part? Non, ce n'est pas galant, c'est tout simple. Je ne vous parle ici que dans mon intérêt. « Mais d'abord, » dit Javotte en se levant et en jouant de l'éventail, « il faudrait savoir, comme je vous disais, ce que vous en feriez de ce bracelet. Je ne peux pas me fier à un homme qui n'a pas lui-même confiance en moi. Voyons, contez-moi un peu vos affaires. Il y a quelques femmes, quelques tricheries là-dessous. Tenez, je parierais que c'est quelque ancienne maîtresse à vous ou à Saint-Aubin qui veut me dépouiller de mes ustensiles de ménage. Il y a quelques brouilles, quelques jalousies, quelques mauvais propos. Allons, parlez donc. S'il faut absolument vous dire mon motif, répondit Tristan, voulant se débarrasser de ces questions, la vérité est que Saint-Aubin est mort. Nous étions fort liés, vous le savez, et je désirais garder ce bracelet où nos deux noms sont écrits ensemble. Bah, quelle histoire vous me fabriquez là! Saint-Aubin est mort depuis quand? Il est mort en Afrique il y a peu de temps. Vrai, oh, pauvre garçon, oh, je l'aimais bien aussi. C'était un gentil cœur et je me souviens que dans le temps, il m'appelait sa beauté rose. Voilà ma beauté rose, disait-il. J'ai trouvé ce nom-là très joli. Vous rappelez-vous comment il était drôle un jour que nous étions à Ermenonville et que nous avions tout cassé dans l'auberge? Il ne restait seulement plus une assiette. Nous avons jeté les chaises par les fenêtres à travers les carreaux, et le matin, tout justement, voilà qu'il arrive une grande longue famille de bons provinciaux qui venaient visiter la nature. Ils ne se trouvaient plus une tasse pour servir leur café au lait. Tête de folle, dit Tristan, ne pouvez-vous une fois par hasard faire attention à ce qu'on vous dit? Avez-vous mon bracelet, oui ou non? Je n'en sais rien du tout et je n'aime pas les propositions faites à bout portant. Mais vous avez, je le suppose, un coffre, un tiroir, un endroit quelconque à mettre vos bijoux. Ouvrez-moi ce tiroir ou ce coffre, je ne vous en demande pas davantage. Javotte sembla un peu réfléchir, se rassit près de Tristan et lui prit la main. Écoutez, dit-elle. Vous concevez que si ce bracelet vous est nécessaire, je ne tiens pas à une pareille misère. J'ai de l'amitié pour vous, Berville. Il n'y a rien que je ne fisse pour vous obliger. Mais vous comprenez bien aussi que ma position m'impose des devoirs. Il est possible que d'un jour à l'autre, j'entre à l'opéra dans les chœurs. Monsieur le baron m'a promis d'y employer toute son influence. Un ancien préfet comme lui a de l'empire sur les ministres. Et monsieur de la Bretonnière, de son côté. La Bretonnière, s'écria Tristan impatienté, et que diable vient-il faire ici? Apparemment qu'il trouve moyen d'être en même temps à Paris et à la campagne. Il ne nous quitte pas là-bas et je le retrouve chez vous. Je vous dis que c'est un ami du baron. C'est un homme fort distingué que monsieur de la Bretonnière. Il est vrai qu'il a une compagne près de la vôtre et qu'il va souvent chez une personne que vous connaissez probablement, une marquise, une comtesse, enfin, je ne sais plus son nom. Est-ce qu'il vous parle d'elle? Qu'est-ce que cela veut dire? Certainement, il nous parle d'elle. Il la voit tous les jours, pas vrai? Il a son couvert à sa table. Elle s'appelle Vernage ou quelque chose comme ça. On sait ce que c'est, entre nous, soit dit, les voisins et les voisines. Eh bien, qu'est-ce que vous avez donc? Peste soit du fat, dit Tristan, prenant la carte de la Bretonnière et la froissant entre ses doigts. Oh, il faut que je lui dise son fait un de ces jours. Oh, Berville, vous prenez feu, mon cher. L'Avernage vous touche, oh, je le vois. Eh bien, faisons l'échange. Votre confidence pour mon bracelet. Vous l'avez donc, ce bracelet? Vous l'aimez donc, cette marquise? Ne plaisantons pas, l'avez-vous? Non pas, je ne dis pas cela. Je vous répète que ma position. Oh, belle position, mais vous moquez-vous des gens. Quand vous iriez à l'opéra et quand vous seriez figurante à 20 sous par jour. Oh, figurante! S'écria Javotte en colère. Mais pour qui me prenez-vous, s'il vous plaît? Je chanterai dans les chœurs, savez-vous. Pas plus que moi. On vous prêtera un maillot et une toque et vous irez en procession derrière la princesse Isabelle. Ou bien on vous donnera le dimanche une petite gratification pour vous enlever au bout d'une poulie dans le palais de la Sylphide. Mais qu'est-ce que vous entendez avec votre position? Mais j'entends et je prétends que pour rien au monde je ne voudrais que monsieur le baron puisse voir mon nom mêlé à une mauvaise affaire. Vous voyez bien que pour vous recevoir, j'ai dit que vous étiez mon parent. Je ne sais pas ce que vous ferez de ce bracelet, moi, et il ne vous plaît pas de me le dire. Monsieur le baron ne m'a jamais connu que sous le nom de madame de Rosenval. C'est le nom d'une terre que mon père a vendue. J'ai des maîtres, mon cher, j'étudie, et je ne veux rien faire qui compromette mon avenir. Plus l'entretien se prolongeait, plus Tristan souffrait de la résistance et de l'étrange légèreté de Javotte. Évidemment, le bracelet était là, dans cette chambre peut-être, mais où le trouver? Tristan se sentait par moments l'envie de faire comme les voleurs et d'employer la menace pour parvenir à son but. Un peu de douceur et de patience lui semblait pourtant préférable. « Ma brave Javotte, dit-il, ne nous fâchons pas. Je crois fermement à tout ce que vous dites. Je ne veux non plus en aucune façon vous compromettre. Chantez à l'opéra autant que vous voudrez, dansez même si bon vous semble. Mon intention n'est nullement. Danser? Moi qui ai joué Célimène? Oui, mon petit, j'ai joué Célimène à Belleville avant de partir pour la province. Et mon directeur, M. Poupinel, qui assistait à la représentation, m'a engagé tout de suite pour les troisièmes du gazon. J'étais ensuite seconde grande première coquette, premier rôle marqué et forte première chanteuse. Et c'est Brochard lui-même, qui est ténor léger, qui m'a fait résilier, et Gustave, qui est la rouette, a voyagé avec moi en Auvergne. Nous faisions 400 ou 500 francs avec la tour de Nesle. Et Adolphe et Clara, nous ne jouions que ces deux pièces-là partout. Si vous croyez que je vais danser... Oh, ne nous fâchons pas, ma belle, je vous en conjure. Mais savez-vous que j'ai joué avec Frédéric? Oui, j'ai joué avec Frédéric en province, au bénéfice d'un homme de lettres. Il est vrai que je n'avais pas un grand rôle. Je faisais un page dans Lucrèce Borgia, mais toujours, j'ai joué avec Frédéric. Non, je n'en doute pas, vous ne danserez point, mais je vous supplie de m'excuser. Mais ma chère, le temps se passe et vous répondez à beaucoup de choses, excepté à ce que je vous demande. Finissons-en, s'il est possible. Dites-moi, voulez-vous me permettre d'aller à l'instant même chez Fossin, d'y prendre un bracelet, une chaîne, une bague, ce qui vous amusera, ce qui pourra vous plaire, de vous l'envoyer et de vous le rapporter selon votre fantaisie? En échange de quoi vous me renverrez, ou vous me rendrez à moi-même, cette bagatelle que je vous demande et à laquelle vous ne tenez pas, sans doute. Qui sait, dit Javotte d'un ton adouci, nous autres nous tenons à peu de choses. Et je suis comme cela, j'aime mes effets. Mais ce bracelet ne vaut pas 10 louis, et apparemment, ce n'est pas ce qu'il y a d'écrit dessus qui vous le rend précieux. La vanité masculine d'une part et la coquetterie féminine d'une autre sont deux choses si naturelles et qui retrouvent toujours si bien leur compte que Tristan n'avait pu s'empêcher de se rapprocher de Javotte en faisant cette question. Il avait entouré doucement de son bras la jolie taille de son ancien ami et Javotte, la tête penchée sur son éventail, souriait en soupirant tout bas, tandis que la moustache du jeune hussard effleurait déjà ses cheveux blonds. Le souvenir du passé et l'idée d'un bracelet neuf lui faisaient palpiter le cœur. « Parlez, Tristan, dit-elle, soyez tout à fait franc. Je suis bonne fille, n'ayez pas peur. Dites-moi où ira mon serpentin bleu. » « Eh bien, mon enfant, répondit le jeune homme, je vais tout vous avouer. Je suis amoureux. Est-elle belle? Oh, vous êtes plus jolie. Elle est jalouse, elle veut ce bracelet. Il lui est revenu, je ne sais comment, que je vous ai aimé. Menteur. Non, c'est la vérité. Vous étiez, ma chère, vous êtes encore si parfaitement gentille, fraîche et coquette, une petite fleur. Vos dents ont l'air de perles tombées dans une rose. Vos yeux et vos truies. Eh bien, dit Javotte, soupirant toujours. « Eh bien, hein, reprit Tristan, et notre bracelet ?» Javotte se préparait peut-être à répondre de sa voix la plus tendre. « Eh bien, mon ami, allez chez Fossin !» lorsqu'elle s'écria tout à coup. « Oh, prenez garde, vous m'égratignez !» La carte de visite de la bretonnière était encore dans la main de Tristan, et le coin du carton corné avait en effet touché l'épaule de Madame Rosenval. Au même instant, on frappa doucement à la porte. La tapisserie se souleva, et la bretonnière lui-même entra dans la chambre. « Par Dieu, monsieur !» s'écria Tristan, ne pouvant contenir un mouvement de dépit. « Vous arrivez comme Mars en carême !»« Comme Mars en toute saison !» dit la bretonnière, enchantée de son calembour. « On pourrait voir cela, » reprit Tristan. « Mais quand il vous plaira ?» dit la bretonnière. « Demain, vous aurez de mes nouvelles. » Tristan se leva, prit Javotte à part. « Je compte sur vous, n'est-ce pas ?» lui dit-il à voix basse. « Dans une heure, j'enverrai ici. » Puis il sortit, sans plus de façon, en répétant encore « À demain !»« Mais que veut dire cela ?» demanda Javotte. « Ma foi, j'en sais rien !» dit la bretonnière. Chapitre 5 et dernier. Armand, comme on le pense bien, avait attendu impatiemment le retour de son frère afin d'apprendre le résultat de l'entretien avec Javotte. Tristan rentra chez lui tout joyeux. « Victoire, mon cher » cria-t-il. « Nous avons gagné la bataille, et mieux encore, car nous aurons demain tous les plaisirs du monde à la fois. »« Bah !» dit Armand. « Qu'y a-t-il donc ? Tu as un air de gaieté qui fait plaisir à voir. » Ce n'est pas sans raison ni sans peine. Javotte a hésité, elle a bavardé, elle m'a fait des discours à dormir debout, mais enfin elle cédera, j'en suis certain, je compte sur elle. Ce soir nous aurons mon bracelet, et demain matin, pour nous distraire, nous nous battrons avec la bretonnière. Encore ce pauvre homme, mais tu l'en veux donc beaucoup. Non, en vérité, je n'ai plus de rancune contre lui. Je l'ai rencontré, je l'ai envoyé promener, je lui donnerai un coup d'épée, je lui pardonne. Et où l'as-tu donc vu, chez ta belle? Eh mon Dieu, oui, ne faut-il pas que ce monsieur-là se fourre partout? Et comment la querelle est-elle venue? Oh, il n'y a pas de querelle, deux mots, te dis-je, une misère. Nous en causerons. Commençons maintenant pour aller chez Fossin, acheter quelque chose pour Javotte, avec qui je suis convenu d'un échange, car on ne donne rien pour rien, quand on s'appelle Javotte, et même sans cela. Allons, dit Armand, je suis ravi comme toi que tu sois parvenu à ton but, et que tu aies de quoi confondre ta marquise. Mais, chemin faisant, mon cher ami, réfléchissons, je t'en prie, sur la seconde partie de ta vengeance projetée. Elle me semble plus qu'étrange. Oh, trêve de mots, dit Tristan, c'est un point résolu. Que j'ai tort ou raison, t'importe. Nous pouvions ce matin discuter là-dessus, à présent le vin est tiré, il faut le boire. Je ne me lasserai pas, reprit Armand, de te répéter que je ne conçois pas comment un homme comme toi, un militaire reconnu pour brave, peut trouver du plaisir à ces duels sans motif, ces affaires d'enfants, ces bravades d'écoliers, qui ont peut-être été à la mode, mais dont tout le monde se moque aujourd'hui. Les querelles de parti, les duels de cocardes peuvent se comprendre dans les crises politiques. Il peut sembler plaisant à un républicain de ferrailler avec un royaliste, uniquement parce qu'il s'en rend compte, les passions sont en jeu et tout peut s'excuser. Mais je ne te conseille pas, ici, je te blâme. Si ton projet est sérieux, je n'hésite pas à te dire qu'en pareil cas, je refuserai de servir de témoin à mon meilleur ami. Mais je ne te demande pas de m'en servir, mais de te taire. Allez, allons chez Fausson. Allô, tu voudras, n'en démordrai pas. Prendre en grippe un homme important, cela arrive à tout le monde. Le fuir ou s'enrailler passe encore, mais vouloir le tuer, c'est horrible. Je te dis que je ne le tuerai pas, je te le promets, je m'y engage. Un petit coup d'épée, voilà tout. Je veux mettre en écharpe le bras du cavalier servant de la marquise, en même temps que je lui offrirai humblement à elle le bracelet de ma grisette. Mais songe donc que cela est inutile. Si tu te bats pour laver ton honneur, qu'as-tu à faire du bracelet? Si le bracelet te suffit, qu'as-tu à faire de cette querelle? Même tu un peu, cela ne sera pas. Non, je t'aime beaucoup, mais cela sera. En parlant ainsi, les deux frères arrivèrent chez Fossin. Tristan, ne voulant pas que Javotte puisse se repentir de son marché, choisit pour elle une jolie châtelaine qu'il fit envelopper avec soin, ayant dessein de la porter lui-même et d'attendre la réponse s'il n'était pas reçu. Armand, ayant autre chose en tête, et voyant son frère plus joyeux encore à l'idée de venir promptement avec le bracelet en question, ne lui proposa pas de l'accompagner. Il fut convenu qu'ils se retrouveraient le soir. Au moment où ils allaient se séparer, la roue d'une calèche découverte courant avec un assez grand fracas rasa le trottoir de la rue Richelieu. Une livrée bizarre qui attirait les yeux fit retourner les passants. Dans cette voiture était Madame de Vernage, seule, nonchalamment étendue. Elle aperçut les deux jeunes gens et les salua d'un petit signe de tête avec une indolence protectrice. « Ah !» dit Tristan, pâlissant malgré lui, « il paraît que l'ennemi est venu observer la place. Elle a renoncé à sa fameuse chasse, cette belle dame, pour faire un tour aux Champs-Élysées et respirer la poussière de Paris. Qu'elle aille en paix, elle arrive à point. Oh, je suis vraiment flatté de la voir ici. Si j'étais un fade, je croirais qu'elle vient savoir de mes nouvelles, mais point du tout. Regarde avec quel laisser-aller aristocratique, supérieur même à celui de Javotte, elle a daigné nous remarquer. Gageons qu'elle ne sait ce qu'elle vient faire. Oh, ces femmes-là cherchent le danger comme les papillons la lumière. Que son sommeil de ce soir lui soit léger. Je me présenterai demain à son petit lever et nous en aurons des nouvelles. Je me fais une véritable fête de vaincre un tel orgueil avec de telles armes. Si elle savait que j'ai là, dans mes mains, un petit cadeau pour une petite fille, moyennant quoi je suis en droit de lui dire « Vos belles lèvres en ont menti et vos baisers sont la calomnie, que dirait-elle ? Elle serait peut-être moins superbe, non pas moins belle. Allez, adieu mon cher, à ce soir. » Si Armand n'avait pas plus longuement insisté pour dissuader son frère de se battre, ce n'était pas qu'il crût impossible de l'en empêcher, mais il le savait trop violent, surtout dans un moment pareil, pour essayer de le convaincre par la raison. Il aimait mieux prendre un autre moyen. La bretonnière, qu'il connaissait de longue main, lui paraissait avoir un caractère plus calme et plus facile à aborder. Il l'avait vu chasser prudemment. Il alla le trouver sur le champ, résolu à voir si de son côté il n'y aurait pas plus de chances de réconciliation. La bretonnière était seule dans sa chambre, entourée de liasses de papier, comme un homme qui met ses affaires en ordre. Armand lui exprima tout le regret qu'il éprouvait de voir qu'un mot, qu'il ignorait du reste, disait-il, pouvait amener deux gens de cœur à aller sur le terrain et de là en prison. « Mais qu'avez-vous donc fait à mon frère ?» lui demanda-t-il. « Ben, ma foi, je n'en sais rien, » dit la bretonnière, se levant et s'asseyant tour à tour d'un air un peu embarrassé, tout en conservant sa gravité ordinaire. « Votre frère, depuis longtemps, me semble mal disposé à mon égard, mais s'il faut vous parler franchement... Je vous avoue que j'ignore absolument pourquoi. N'y a-t-il pas entre vous quelque rivalité? Ne faites-vous pas la cour à quelque femme? Non, en vérité, pour ce qui me regarde, je ne fais la cour à personne, et je ne vois aucun motif raisonnable qui ait fait franchir ainsi à votre frère les bornes de la politesse. Ne vous êtes-vous jamais disputés ensemble? Jamais, oh, une seule fois exceptée, oh, c'était du temps du choléra. Monsieur de Berville, en causant au dessert, soutint qu'une maladie contagieuse était toujours épidémique et il prétendait baser sur ce faux principe la différence qu'on a établie entre le mot épidémique et le mot endémique. Je ne pouvais, vous le sentez, être de son avis, et je lui démontrais fort bien qu'une maladie épidémique pouvait devenir fort dangereuse sans se communiquer par le contact. Nous mîmes à cette discussion un peu trop de chaleur, j'en conviens. Est-ce là tout? Bon, autant que je me le rappelle. Peut-être cependant a-t-il été blessé il y a quelque temps de ce que j'ai cédé à l'un de mes parents de Basset dont il avait envie. Ben, que voulez-vous que j'y fasse? Ce parent vient me voir par hasard, je lui montre mes chiens, il trouve ses Bassets. Bon, si ce n'est que cela encore, il n'y a pas de quoi s'arracher les yeux. Non, à mon sens, je le confesse. Aussi vous dis-je en toute conscience que je ne comprends exactement rien à la provocation qu'il vient de m'adresser. Mais si vous ne faites la cour à personne, il est peut-être amoureux, lui, de cette marquise chez laquelle nous allons chasser. Bon, cela se peut. Bon, je ne le crois pas. Je n'ai point souvenance d'avoir jamais remarqué que la marquise de Vernage puisse souffrir ou encourager des assiduités condamnables. Mais qu'est-ce qui vous parle de rien contre condamnable? Est-ce qu'il y a du mal à être amoureux? Ne discute pas cette question. Je me borne à vous dire que je ne le suis point et que je ne saurais par conséquent être le rival de personne. Alors, en ce cas, vous ne vous battrez pas? Ah, je vous demande pardon, je suis provoqué de la manière la plus positive. Il m'a dit lorsque je suis entré que j'arrivais comme Mars en carême. De tels discours ne se tolèrent pas, il me faut une réparation. Vous couperez la gorge pour un mot? Les conjonctures sont fort graves. Je n'entre point dans les raisons qui ont amené ce défi. Je m'en étonne parce qu'il me semble étrange, mais je ne puis faire autrement que de l'accepter. Et un duel pareil est-il possible? Vous n'êtes pourtant pas fou, ni Berville non plus. Voyons la bretonnière, raisonnons. Croyez-vous que cela m'amuse de vous voir faire une étourderie semblable? Je ne suis point un homme faible, mais je ne suis pas non plus un homme sanguinaire. Si votre frère me propose des excuses, pourvu qu'elles soient bonnes et valables, je suis prêt à les recevoir. Sinon, voici mon testament que je suis en train d'écrire, comme cela se doit. Mais qu'entendez-vous par des excuses valables? J'entends, oh, cela se comprend. Mais encore, ben, de bonnes excuses. Mais enfin, à peu près, parlez. Eh bien, il m'a dit que j'arrivais comme Mars en carême, et je crois lui avoir dignement répondu. Il faut qu'il rétracte ce mot et qu'il me dise, devant témoin, que j'arrivais tout simplement comme monsieur de la Bretonnière. Bon, je crois que s'il est raisonnable, il ne peut vous refuser cela. Armand sortit de cette conférence, non pas entièrement satisfait, mais moins inquiet qu'il ne l'était venu. C'était au boulevard de Gand, entre 11 h et minuit, qu'il avait rendez-vous avec son frère. Il le trouva, marchant à grands pas d'un air agité, et il s'apprêtait à négocier son accommodement dans les termes voulus par la bretonnière, lorsque Tristan lui prit le bras en s'écriant: « Tout est manqué, Javotte se joue de moi, je n'ai pas mon bracelet. Et pourquoi? Pourquoi? Mais que sais-je, une idée d'hirondelle. Je suis allé chez elle tout droit. » On me répond qu'elle est sortie. Je m'assure qu'en effet elle n'y est pas et je demande si elle a rien laissé pour moi. La chambrière me regarde avec étonnement. À force de questions, j'apprends que Madame Rosenval a dîné avec son baron à lunettes et une autre personne, sans doute ce damné la bretonnière, et qu'ils se sont séparés ensuite, la bretonnière pour rentrer chez lui, Javotte et le baron pour aller au spectacle, non pas dans la salle, mais sur le théâtre, et je ne sais quoi encore d'incompréhensible, le tout mêlé de verbiage de servante. Madame avait reçu une bonne nouvelle, Madame paraissait très contente, elle était pressée, on n'avait pas eu le temps de manger le dessert, mais on avait envoyé chercher à la cave du vin de champagne. Cependant, je tire de ma poche la petite boîte de fossin que je remets à la chambrière en la priant de donner cela ce soir à sa maîtresse et en confidence. Sans chercher à comprendre ce que je ne peux savoir, je joins à mon cadeau un billet écrit à la hâte. Là-dessus, je rentre, je compte les minutes, et la réponse n'arrive pas. Voilà où en sont les choses. Maintenant que cette fille a je ne sais quoi en tête, s'en détournera-t-elle pour m'obliger? Et quel vent a soufflé sur cette girouette? Mais, dit Armand, le spectacle a fini tard. Il lui faut bien à cette girouette le temps nécessaire pour lire et répondre, chercher ce bracelet et l'envoyer. Nous le trouverons chez toi tout à l'heure. Songe donc que Javotte ne peut décemment accepter ton cadeau qu'à titre d'échange. Quant à ton duel, n'y songe plus. Bon, mon Dieu, je n'y songe pas, j'y vais. Mais fou que tu es, notre mère! Tristan baissa la tête sans répondre, et les deux frères rentrèrent chez eux. Javotte n'était pourtant pas aussi méchante qu'on pourrait le croire. Elle avait passé la journée dans une perplexité singulière. Ce bracelet redemandé, cette insistance, ce duel projeté, tout cela lui semblait autant de rêveries incompréhensibles. Elle cherchait ce qu'elle avait à faire et sentait que le plus sage eût été de demeurer indifférente à des événements qui ne la regardaient pas. Mais si Madame Rosenval avait toute la fierté d'une reine de théâtre, Javotte, au fond, avait bon cœur. Berville était jeune et aimable. Le nom de cette marquise, mêlé à tout cela, ce mystère, ces demi-confidences, plaisait à l'imagination de la grisette parvenue. S'il était vrai qu'il m'aime encore un peu, pensait-elle, et qu'une marquise fût jalouse de moi, y aurait-il grand risque à donner ce bracelet? Ni le baron ni d'autres s'en douteraient, je ne le porte jamais. Pourquoi ne pas rendre service? Si cela ne fait du mal à personne. Tout en réfléchissant, elle avait ouvert un petit secrétaire dont la clé était suspendue à son cou. Là étaient entassés, pêle-mêle, tous les joyaux de sa couronne, un diadème en clinquant pour la tour de Nesle, des colliers en strass, des émeraudes en verre qui avaient besoin des quinquets pour briller d'un éclat douteux. Et du milieu de ce trésor, elle tira le bracelet de Tristan et considéra attentivement les deux noms gravés sur la plaque. Il est joli, ce serpentin, dit-elle. Mais quelle peut être l'idée de Berville en voulant le reprendre? Je crois qu'il me sacrifie. Si l'inconnu me connaît, je suis compromise. Ces deux noms à côté l'un de l'autre, c'est pas autorisé. Si Berville n'a eu pour moi qu'un caprice, c'est une raison. Bon, il m'en donnera un autre, ce sera drôle. Javotte allait peut-être envoyer le bracelet lorsqu'un coup de sonnette vint l'interrompre dans ses réflexions. C'était le monsieur aux lunettes d'or. Mademoiselle, lui dit-il, je vous annonce un succès, vous êtes des cœurs. Ce n'est pas de prime abord une affaire extrêmement brillante. 30 sous, vous savez, mais n'importe. Ce joli pied est dans l'étrier, et dès ce soir, Vous porterez un domino dans le bal masqué de Gustave. Oh, voilà une nouvelle! S'écria Javotte en sautant de joie. Choriste à l'opéra! Choriste tout de suite! Oh, j'ai justement repassé mon chant. Je suis en voix ce soir, Gustave. Oh, mon Dieu! Après le premier moment d'ivresse, Madame Rosenval retrouva la gravité qui convient à une cantatrice. « Baron, dit-elle, vous êtes un homme charmant. Il n'y a que vous, et je sens ma vocation. Dînons, allons à l'opéra, à la gloire, rentrons sous pont. Allez-vous-en, je dors déjà sur mes lauriers. » Le convive attendu arriva bientôt. On brusqua le dîner, et Javotte ne manqua pas de vouloir partir beaucoup plus tôt qu'il n'était nécessaire. Le cœur lui battait en entrant par la porte des acteurs, dans ce vieux, sombre et petit corridor, où Taglioni peut-être a marché. Comme le ballet fut applaudi, Madame Rosenval, couverte d'un capuchon rose, crut avoir contribué au succès. Elle rentra chez elle fort émue, et dans l'ivresse du triomphe, ses pensées étaient à 100 lieues de Tristan, lorsque sa femme de chambre lui remit la petite boîte soigneusement enveloppée par Fossin et un billet où elle trouva ces mots. « Il ne faut pas que les plaisirs vous fassent oublier un ancien ami qui a besoin d'un service. Soyez bonne comme autrefois. J'attends votre réponse avec impatience. » « Oh, ce pauvre garçon, dit Madame Rosenval, je l'avais oublié. Il m'envoie une châtelaine. Il y a plusieurs turquoises. » Javotte se mit au lit et ne dormit guère. Elle songea bien plus à son engagement et à sa brillante destinée qu'à la demande de Tristan. Mais le jour la retrouva dans ses bonnes pensées. « Allons, dit-elle, il faut s'exécuter. Ma journée d'hier a été heureuse. Il faut que tout le monde soit content. » Il était 8 heures du matin quand Javotte prit son bracelet, mit son châle et son chapeau et sortit de chez elle, pleine de cœur et presque encore grisette. Arrivée à la maison de Tristan, elle vit, devant la loge du concierge, une grosse femme, les joues couvertes de larmes. « Monsieur de Berville ?» demanda Javotte. « Hélas !» répondit la grosse femme. « Y est-il, s'il vous plaît ? Est-ce ici ?»« Hélas, madame, il s'est battu. On vient de le rapporter. Il est mort. » Le lendemain, Javotte chantait pour la seconde fois dans les chœurs de l'opéra, sous un quatrième nom qu'elle avait choisi, celui de Madame Amaldi. Fin du secret de Javotte.